Prions. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de nous présenter devant toi, Seigneur notre Dieu, de pouvoir écouter ta parole, notre Dieu. C'est une grâce spéciale pour nous, Seigneur notre Dieu, qui sommes ici, car nous te lèvons, Seigneur notre Père. Te présentons le messager qui est devant nous, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que tu l'envoies de ton esprit, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions écouter ta parole et la connaître, la comprendre, Seigneur notre Dieu. Transforme-nous par cette parole, Seigneur notre Dieu. Sanctifie-nous, Seigneur notre Dieu, par cette parole, parce que nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui continue à cheminer avec nous. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour de notre séminaire, en marge de la semaine du baptême. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et pour ceux-là aussi qui sont en train de nous suivre en ligne, que vous qui êtes présents et ceux qui sont en ligne, le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans la première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15 jusqu'à 17. La première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15 jusqu'à 17. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, c'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre thème, persécutés mais non abandonnés. Tous ceux qui ont cru en Christ ont une certaine persécution de la part de ceux-là qui n'ont pas cru en Christ parce qu'ils ont un mode de vie que les autres n'ont pas. Votre présence, lorsque vous êtes chrétien fidèle, dérange toujours les autres. Votre présence ne les laisse jamais à l'aise. Et vous devez en payer le prix. Vous devez en payer le prix. Hier, nous avons parlé des persécutions dans l'histoire de l'Église. Et là, nous avons défini la persécution, nous avons défini le mot persécution. Nous avons donné plusieurs définitions. Mais nous avons dit, en bref, que la persécution des chrétiens, c'est le fait que tu es chrétien et tu es poursuivi à cause de la profession de ta foi, à cause du mode de vie que tu mènes devant le monde. Les gens qui sont injustes, et toi tu es juste. Les gens qui sont orgueilleux, et toi tu es humble. Et ces gens-là ont l'objectif de vouloir déloger ce Christ qui te permet de vivre de cette manière-là. Et au moment où le Christ sera délogé, il va jubiler. Et au cas où tu ne veux pas renoncer, ils vont même aller jusqu'à toucher à ta vie, toucher à ton corps, pour ne fût-ce que voir comment tu vas régner le Christ. Nous avons parlé de certaines figures dans l'Ancien Testament qui ont été soumises aussi à la persécution à cause de leur justice, à cause de leur fidélité à Dieu, ou parce qu'ils ont été agréés par le Seigneur, ils ont été soumis à la persécution. Nous avons parlé d'Abel. Nous avons donné l'exemple de David, le prophète Jérémie, Joseph, le fils de Jacob. Nous avons parlé de plusieurs comme Daniel, Meshach, Abednego, ces gens-là qui ont proféré leur foi, leur croyance à Dieu, et ils ont été la cible des gens de ce monde. Et nous avons aussi parlé de la persécution de ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ au premier siècle. Ceux-là qui ont cru en Christ au premier siècle, jusqu'au troisième siècle, ils ont été aussi la cible des gens de ce monde. Les gens orgueilleux, les gens qui placent leur confiance dans des choses ou dans des créatures de ce monde. Nombreux sont morts, ils ont accepté de donner de leur vie pourvu que le nom de Dieu soit exalté dans leur vie. Et il y a d'autres aussi qui ont accepté de renoncer. Ils ont accepté de renoncer, ils ont renié leur foi. Mais grâce à ceux-là qui sont restés intacts, ceux-là qui sont restés fidèles à Dieu, l'Évangile nous est parvenu. Les gens qui ont accepté de verser de leur sang, c'est à cause de ce sang-là qui a été versé aussi, l'Évangile nous est parvenu. Leur sang n'a pas la capacité de nous donner la vie comme le sang de Christ. Mais ils ont accepté de verser leur sang pour la cause de l'Évangile. La persécution n'a pas été un frein pour le développement de l'Évangile. Même si c'était un moment difficile, mais ils sont allés jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, le Christ ou l'Église sera toujours un problème face au monde. Car Christ lui-même l'avait dit, les gens de ce monde, ils vont vous bastonner. Les gens de ce monde, ils vont vous flageller. Mais ne vous inquiétez pas, car moi, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est Christ qui l'a dit. Et donc, aujourd'hui, nous voulons parler des chrétiens face au monde. Hier, nous avons parlé de la persécution. Aujourd'hui, nous voulons parler du monde. Le chrétien face au monde. Et nous avons subdivisé notre enseignement de ce soir à 4 points. Le premier point, nous allons définir le monde. Le monde, c'est quoi? Le deuxième point, nous allons parler de la nature du monde. La nature du monde. Le troisième point, nous allons parler des caractéristiques du monde. Et le quatrième point, nous allons parler du chrétien face au monde. Quand nous aurons défini le monde, quand nous aurons parlé de la nature du monde, quand nous aurons parlé des caractéristiques du monde, cette nature, cette caractéristique doit te permettre de prendre une position. Doit te permettre de prendre une position, toi qui es chrétien, aujourd'hui au 21e siècle. Quelle est ta contribution comme chrétien? Est-ce que tu acceptes de manger des mets succulents des gens de ce monde ou tu acceptes de prendre les épinards pourvu que tu sois fidèle à Dieu? Comment nous définissons le monde? Avant que je ne parle de la définition directe du monde, c'est-à-dire le mot cosmos, je voudrais d'abord dire 3 choses par rapport à ce que dit la Bible concernant le monde. Il y a 3 sortes de monde dont la Bible parle. La Bible parle de 3 choses pour définir le monde. Et la première chose, le monde, c'est l'univers, ce qui a été créé par Dieu, le ciel et la terre, et tout ce qu'il renferme appartient à Dieu et ce qu'on appelle le monde. Et ça, nous trouvons quand nous lisons Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce chapitre-là parle de la création du monde. La deuxième chose, ou le deuxième monde, ce sont les gens qui habitent dans ce monde. Les gens qui habitent sur la terre, on peut les appeler le monde. Jusque-là, il n'y a pas une connotation négative du monde. On peut les appeler le monde, les gens qui vivent au monde. C'est pourquoi, même en français, quand vous parlez, vous pouvez dire, je suis arrivé au marché, il y avait beaucoup de monde. Le monde là, c'est l'humanité, les gens, les personnes qui vivent au monde. Alors ça, vous trouvez, quand vous lisez Jean chapitre 3, verset 16, car la Bible dit, car Dieu en t'a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce monde-là, ce sont ces gens que Dieu a aimés et pour qui il a donné son Fils unique, afin que si ce monde croit, ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. La troisième catégorie du monde, c'est l'ensemble de ceux-là qui sont loin, loin, loin de Dieu. Ils vivent dans le péché. C'est la société profane, par contraste avec le peuple de Dieu. C'est l'état d'esprit. C'est-à-dire, ce monde ici, c'est spirituel, parce qu'on ne peut pas le palper, ce n'est pas palpable. C'est un état d'esprit. Les aspirations, l'ensemble des aspirations, l'ensemble des valeurs. Bon, je ne sais pas si on va les appeler valeurs ou antivaleurs, mais pour eux, ce sont des valeurs. La façon de vivre et d'agir et qui est propre à eux, mais loin de Dieu. C'est ce type de monde que nous venons de lire dans la première épître des Jean. Dieu qui dit, n'aimez pas le monde, car le monde passe et sa convoitise. Ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. Dans ce verset, le contexte est celui de ce monde immatériel que nous ne voyons pas, mais spirituel, et qui se caractérise par la rébellion contre Dieu. Leur vie, leur manière d'être, la vie qu'ils donnent, qu'ils montrent au monde, et alors on dit, ces gens, c'est le monde. N'aimez pas le monde. La Bible vous dit, n'aimez pas le monde pendant que vous êtes au monde. Ça, c'est Jésus qui l'avait dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal. Si Dieu a voulu que nous restions ici, parce que quand même, il pouvait directement dire, comme vous avez cru en moi, et moi, je ne peux plus vous voir être en train d'être souillé par le monde, allons directement ensemble. Il n'a pas dit ça. Jésus lui-même, il est parti seul. Il est monté seul. Et il nous dit, le monde va vous haïr. Il fallait que les disciples quand même lui disent, si le monde va nous haïr, qu'est-ce que ça va chauffer? Il faut nous accepter de partir demain avec vous. Non, non, le Seigneur sait que il va vous utiliser comme la lumière de ce monde qui vit dans les ténèbres. Et donc, quand vous lisez la Bible, vous devez savoir, dans ces versets, si on parle du monde, c'est quelle sorte de monde. Quand on dit « n'aimez pas le monde », on ne vous dit pas de ne pas aimer les haricots qui sont ici au monde. Les haricots ont été créés par Dieu sur la terre, parce que la Bible dit « la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu ». Et les haricots appartiennent aussi à Dieu. Quand on dit « n'aimez pas le monde », mais il y a des choses aussi qui sont dans ce monde, qui sortent de la dimension du monde créé par Dieu et qui vont dans la dimension du monde qui est loin de la volonté de Dieu. Nous allons y revenir quand nous serons en train de continuer. Ça, ce sont les trois sortes de monde dont la Bible nous parle. Alors, le mot monde dans la Bible est en grec, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec. Le mot monde, c'est le cosmos. Le cosmos, c'est le mot que la Bible utilise pour désigner ce monde-là. Le mot cosmos, à lui seul, dans son essence, il a l'idée d'une structure, l'idée d'un système ou l'idée d'une organisation. Une organisation. Ça veut dire que le monde, c'est l'organisation de l'humanité. Ici, nous parlons maintenant du monde qui est à contraste avec la parole de Dieu. Le monde qui est à contraste avec la volonté de Dieu. Alors, quand nous parlons de cosmos, le mot qui est traduit par monde dans la Bible, c'est l'organisation de l'humanité selon les principes de Satan. Selon un système bâti sur l'orgueil, un système bâti sur l'égoïsme, un système bâti sur le mensonge, un système bâti sur la violence, la convoitise, la cupidité et même la licence. La licence dans le sens d'une liberté excessive. Il y a des gens qui exagèrent dans leur liberté. Quand vous agissez selon l'un de ces principes, ça veut dire que vous êtes animé de l'esprit du monde. Ça veut dire, tous ces gens-là qui transgressent la loi de Dieu, ils sont des gens du monde, les gens du monde. Ça veut dire que c'est possible que nous soyons dans une même maison, les uns sont dans la maison et sont au monde, les autres sont dans la même maison, mais ils ne sont pas du monde, si je peux le dire comme ça. Les gens qui ont cru en Christ sont au monde, mais ne sont pas du monde. Alors, chez vous à la maison, vous pouvez être même avec votre femme, votre mari. Vous êtes au monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pendant que celui qui dort à côté de vous, il est du monde. C'est possible. Et peut-être, vous pouvez ne pas le connaître. Ça veut dire que ce monde dont nous parlons, ce n'est pas un lieu particulier, un lieu spécial que vous pouvez aller voir. Je veux dire, bon, moi, je sors d'ici, je vais au monde. Ça peut même être ici à l'église. Les gens qui vivent en l'église et n'ont pas reçu Christ, ils sont hypocrites à l'église. Alors, ils sont les gens du monde dans l'église. Ces gens sont du monde, mais dans l'église. Pour signifier que le monde dont nous parlons, c'est une façon de penser, une manière de vivre. Tu peux même vivre ta chrétienté et tu penses que ta manière de vivre, tu es dans la bonne voie avec Dieu, alors que tu es du monde. L'exemple, c'est celui du pharisien. C'est à Luc 18, 9 à 14. Cet exemple, c'est quoi? Il y a un publicain et un pharisien. Ils sont tous en train de prier. Le publicain, lui, il sait que moi, je suis pécheur, Seigneur. Souviens-toi de moi et pardonne mes péchés. Le pharisien, lui, il prie. Il dit, Seigneur, toi, tu sais que moi, je suis saint. Tu sais que moi, je ne suis pas mauvais comme celui-là. Tous sont en train de faire une bonne chose. Mais la manière dont cette personne est en train de le faire prouve la manière de vivre déjà du monde. Il y a ce qu'on appelle orgueil dans sa manière de prier. Comment vous faites le travail de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une manière d'orgueil? Parce que possiblement, vous pouvez le faire à l'église et vous pensez que vous le faites pour la gloire de Dieu, alors que ce n'est pas ça. On peut prêcher. Je prêche ici sans l'humilité. Je prêche avec orgueil. Je prêche, je dis, bon, les autres, il n'y a que moi qui sais prêcher. Non, non, j'ai fait une bonne chose. Mais la manière dont je la fais montre que je ne suis pas de Christ, mais je suis du monde. Alors que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Aussi, dans la Bible, il y a des actions ou des valeurs au sujet desquelles la parole de Dieu n'est pas explicite. Vous pouvez lire ici, en Genèse, c'est positif. Vous lisez à Timothée, la même chose dont on a parlé à Genèse positivement, à Timothée, ça va être négativement. C'est pourquoi quand nous sommes chrétiens, nous devons nous rassurer que lorsque nous faisons la lecture de la parole, nous la faisons selon l'esprit qui est là dans les textes que nous avons lus, pour ne pas être trompés par les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde sont capables aussi d'utiliser les Écritures pour vous dévier. Je vais prendre quelques exemples. Si vous lisez 1 Timothée chapitre 5, verset 23, là il y a le vin. Paul dit, tu peux prendre un peu de vin parce que tu as des crampes dans ton estomac. Là, il y a un contexte spécifique. C'est tout, c'est le vin. Et là, ce n'est pas mauvais. C'est un bon usage. En Genèse 19, 33-36, là, il y a deux filles de Lot qui vont utiliser le vin pour enivrer leur père, afin qu'elle couche avec lui. Et effectivement, il a bu ce vin-là. Alors ici, il faut dire quoi? Est-ce que le vin est autorisé ou n'est pas autorisé? Les gens de ce monde, ils peuvent venir avec un verset biblique, ils vous disent, cette fois-ci, le vin même est autorisé. Mais si vous ne connaissez pas aussi une autre tournure, vous pouvez dire, en tout cas, on y va. Parce que peut-être, vous n'avez pas su les contextes d'ici et les contextes de ceci. Un autre exemple, c'est la fortune, la richesse. En 1 Timothée chapitre 6, verset 10, si vous lisez, la parole de Dieu dit que l'argent, c'est la source de tous les maux. Donc l'argent n'est pas bon. La richesse n'est pas bonne. Même Jésus avait dit, il est plus facile à un chameau d'entrer dans ce trou d'une aiguille qu'un riche entrer dans le royaume des cieux. Si on lit ce verset d'une manière renversée, nous pouvons facilement dire tous les riches qui sont ici, même qui sont dans cette église, ils ne seront pas au ciel. Et on peut penser que peut-être il faut être pauvre pour aller au ciel. Mais là, vous ne connaissez pas le contexte de ce verset-là. Mais les gens de ce monde peuvent venir utiliser ce verset pour vous convaincre. En 1 Rois chapitre 3, versets 11 à 13, ici c'est là où Salomon demande à Dieu de lui donner la sagesse. Salomon a dit à Dieu, j'ai besoin de la sagesse qui vient de toi. Et Dieu a dit, comme tu as besoin de la sagesse, je vais te donner la sagesse, je vais te donner l'intelligence. Mais je vais aussi te donner ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner la richesse. Là, la richesse, c'est un bon usage. C'est un bon usage. Alors, il faut chaque fois faire la part des choses quand vous faites face aux gens de ce monde. Un autre exemple, c'est la sexualité. Bon. On a dit que le dimanche, j'ai parlé beaucoup de la sexualité et que ça a été un scandale. Malheureusement, c'est là aussi où il y a un grand problème dans notre vie d'aujourd'hui. Si on parle de l'homosexualité et d'autres choses, c'est là. C'est pourquoi, excusez-moi, je vais en parler. La sexualité en Genèse 1, 28, c'est une bonne chose. Dieu dit, soyez féconds. Remplissez la terre. Vous n'allez pas remplir la terre sans sa sexualité. C'est un bon usage. Cette même pratique de la sexualité, si vous lisez en 2 Samuel 11, 2 à 5, là il y a l'histoire de David et Bathsheba. David prend la femme d'autrui. Alors qu'il avait ses femmes, il n'avait pas seulement une, il avait d'autres femmes, mais il a pris la femme d'autrui. Là, il a été condamné. Là, on dit que, bon, soyez féconds, remplissez la terre. Ici, tu fais ça maintenant. On te dit, non, non, tu n'as pas fait ça selon les règles. Ça veut dire que nous devons être attentifs à tous les textes qui sont devant nous, que nous lisons. Vous savez, le diable, quand il veut nous emporter, il utilise aussi les Écritures que nous lisons. Vous allez vous souvenir du jour où Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert sans manger. Le diable lui a proposé, lui a dit, si tu es fils de Dieu, fais à ce que ces pierres soient des pains. Jésus a dit, il est écrit. Et le diable, pour argumenter, il a aussi dit à Jésus, si tu tombes, si tu sautes et vas jusqu'en bas, même Dieu a ordonné, il a dit qu'il ordonnera à ses anges afin que toi, si tu tombes ici, tu ne sois fracturé. Ça, il a aussi cité les psaumes 91. Le diable. Donc, le diable aussi connaît les Écritures. Il peut même les connaître plus que vous. Et il connaît toutes les méandres des Écritures. Tu peux donner ce verset, lui, il te donne l'autre. Et il peut vous convaincre même dans votre propre Bible. Alors, ce que le monde nous montre fréquemment comme ses valeurs, c'est quoi? Et qui nous persécute, nous qui sommes des chrétiens. Je vais citer certaines choses ici, qui sont courantes dans ce monde ici. La première chose et qui fait rage aujourd'hui dans le monde, c'est l'homosexualité. Nous avons des tueries et massacres. Nous avons la corruption qui ne dit pas son nom. Nous avons différentes déviations sexuelles, l'homosexualité y compris. L'occultisme, l'alcoolisme. Savez-vous que dans notre société d'aujourd'hui, les gens mettent moins d'importance pour la virginité et la chasteté avant le mariage? C'est devenu comme si c'est aussi une valeur. Donc, si tu dis que je suis vierge, les gens vont se moquer de toi. Possiblement, on peut se moquer de toi. Dans ce monde ici, les gens, tu n'es pas fier de montrer aux gens que tu es chrétien. Mais quand même, tu peux être fier de montrer aux gens que tu peux prendre de l'alcool. Et là, les gens vont dire que ou comme Naoum, ou bien tu es une femme. Parce qu'il y a aussi homme et homme. Il y a femme et femme. Vous voyez, quand on te dit tu es ou comme Naoum, ce n'est pas dire qu'on ne voit pas que tu es un homme. On voit que tu es un homme, mais à cause de ce que tu viens de faire, on dit non, non, tu es un homme. La nuit d'aujourd'hui, c'était hier, le président ougandais, je sais que vous avez déjà suivi dans les réseaux sociaux, j'ai été béni ce matin en me réveillant. Chaque fois que je me réveille, j'allume la radio RFI. Et là, on a dit qu'en Ouganda, le président a déjà promulgué la loi contre l'homosexualité. Et la paix avec une peine lourde. Voici comment maintenant j'ai été persécuté. Ce matin-là, j'ai été persécuté, même j'ai dit à mon épouse, comment les gens peuvent être comme ça? La première personne qui a réagi à cette publication, c'était le président américain, Joe Biden. Il a dit, ça, c'est la loi de la honte. C'est ce qui a été dit. Ça, c'est le président américain qui dit, la loi contre l'homosexualité, c'est la loi de la honte. Et j'ai été persécuté. Dans mon cœur, je me suis dit vraiment, comment quelqu'un peut dire ça? Et au même moment, il a ordonné à ses services, il donne souvent, je ne sais pas, c'est la RFI qui a dit, un montant qui peut équivaloir à $1 milliard chaque année pour lutter contre le VIH/SIDA en Ouganda, pour lutter contre ces choses, donc dans différents domaines. Et c'est déjà ordonné qu'on doit faire une étude pour voir comment on va couper ces aides-là. Voilà comment les gens qui se mettent pour la parole de Dieu, ils sont persécutés. C'est une persécution financière qui va s'abattre sur l'Ouganda à cause de cette décision. Mais je vous assure, Dieu qui ne ment jamais et qui reste toujours Dieu, l'Ouganda ne va pas fermer. L'Ouganda restera l'Ouganda. Et parce que le Seigneur ne va pas permettre. En fait, on nous dit souvent que la main qui donne est toujours supérieure, au-dessus de celle qui reçoit. Alors les gens qui nous donnent, ils ont toujours tendance à nous dicter leur loi. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait dit pour le mariage? Ils n'ont pas pensé que Dieu, il était incapable de créer un homme et un autre homme masculin. Il n'était pas incapable. Il n'était pas incapable non plus de créer ou de subdiviser celui qu'il avait déjà créé. Il les coupe à deux. Pour que celui-ci soit un autre et un et celui-ci un autre. Mais dans sa toute souveraineté, il a créé une femme à côté. Égale à l'homme, mais différente au même moment. Pour accomplir son plan du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens de ce monde nous amènent des choses et nous persécutent de manière que nous pouvons même arriver à croire que c'est normal. C'est normal. Je sais qu'il y aura une autre nation qui va s'ajouter aux États-Unis. Nous aussi, nous vous donnons autant, nous n'allons plus donner. Nous aussi, nous vous donnons autant, nous n'allons plus donner. Et c'est très important. J'ai aimé quand même cette manière de faire de l'Ouganda parce que la réaction de l'Américain, cette réaction a directement montré que l'acte que vient de faire l'Ouganda vient de faire très mal à leur plan, le plan qui est diabolique. C'est pourquoi j'ai dit, l'obscurité ne résiste jamais là où il y a la lumière. L'obscurité ne résiste jamais là où il y a la lumière. Donc, je ne comprends pas comment ils peuvent se sentir que ce sont eux qui sont visés. Ils se sentent visés. Alors, en fait, quand tu sais que tu es dans le mal, même si tu passes quelque part et les gens qui sont dans leur boutique rient, toi-même, tu penses que non, voilà, c'est ça ce qui a été leur attitude. Comment les gens, c'est leur loi, c'est leur pays, ils sont indépendants et ça vous fait du mal là-bas. Il faut prier pour l'Ouganda pour que qu'ils aient leur propre argent qui ne vient pas des homosexuels. Des tueries et des massacres. Aujourd'hui, c'est possible que le monde nous montre que tuer quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Quelqu'un peut s'asseoir dans un laboratoire et il crée un virus pour vous exterminer. Et on va acclamer. Malheureusement, quand ils peuvent faire même ça, mais les gens qu'ils ont visés, comme les seigneurs aussi n'adorent pas, eux-mêmes vont mourir. Les gens qu'ils ont visés résistent. Ils résistent. Les gens de ce monde. Les gens se mettent. Quand nous voyons des massacres à Béni et ailleurs dans cette république, c'est le résultat des assises. Les gens se mettent quelque part et ils planifient. Voici comment on va faire. Voici comment on va faire. Voici comment on va faire. Et les gens meurent. Quand nous on pleure, ils jubilent. Ils jubilent. Et ils écrivent, aujourd'hui, notre combat a fait tuer autant de chrétiens. La persécution. À cause de la foi que nous avons en Christ, les gens se mettent pour nous exterminer. La corruption. La corruption, c'est aussi un acte qui gangrène notre société. Et c'est devenu comme si c'est normal. Est-ce que quand quelqu'un vous amène de l'argent, c'est votre chef, ou bien vous êtes subalterne, vous amenez l'argent au chef, est-ce que vous avez le temps de demander pourquoi tu m'amènes cette chèvre? Le chef qui est ici, pourquoi tu m'amènes cette chèvre? Parce que quand on t'amène la chèvre, on achète automatiquement votre conscience. Quand il s'agira de siéger contre cette personne-là, c'est seulement cette chèvre-là qui va venir dans ta tête. Où est le théâtre à Mbose? Où est le chacané par Cadiz? Où est le chacané? Peut-être que ce n'est même pas dans le sens de la corruption. Mais les conséquences de ça seront toujours les mêmes que celles de la corruption. Bon, je ne vous dis pas de donner. Il faut donner. C'est un problème aussi pour les pasteurs. Oui, oui. Si quelqu'un m'amène un dixième au bureau, $1,000, 2,000, 5,000, et je prie pour lui. Et le lendemain, on l'attrape dans l'adultère. Maintenant, pasteur, tu dois excommunier cette personne. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, vous voyez, nous devons d'abord enseigner pour voir comment, bon, s'il récidive, alors là, on peut... Et les choses, je ne vous dis pas de ne pas nous amener les dixièmes. Amenez-les. Mais si vous l'amenez, sachez que si vous vous retrouvez dans la faute, on va vous mettre à la porte. Oui, oui. On va dire non, vous, en tout cas, comprenez. Comprenez nos émotions. On va vous dire, basse, comprenez. Les déviations sexuelles qui sont, même dans les couples de mariés, même dans la vie des gens, le Seigneur a créé, et quand il crée, il sait la raison pour laquelle il crée cet organe. Il sait la raison pour laquelle il crée cet organe chez celui-ci, chez celle-ci. Et quand il vous dit « utilisez ces organes », vous devez vous rassurer que vous les utilisez de la manière dont il a voulu, parce que c'est lui le créateur, celui qui sait ça. Cette question d'homosexualité, cette question de sodomie, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est depuis la nuit des temps, c'est depuis l'Ancien Testament, même avec Lot. C'est la raison pour laquelle Sodome et Gomorre a été incendié par Dieu lui-même, c'était ça. Et c'est de là que vient le mot sodomie. Si vous ne connaissez pas sodomie, vous allez voir dans votre dictionnaire, vous allez voir ce que ça veut dire. Les gens homosexuels. Et même quand Jésus est né, ils étaient toujours là. Donc, ça veut dire que ça, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une question qui date de longtemps. Mais le Seigneur, il sait que le reste est là. Les gens, donc vous, nous qui sommes ici, nous sommes là et nous allons nous mettre pour déclarer oh, ce que veut dire Dieu, ce que veut Dieu dans notre vie. L'occultisme, avant et peu ici, c'était comme si les gens faisaient l'occultisme à cachette. Mais aujourd'hui, c'est devenu officiel. C'est officiel, on fait même des communiqués. On fait des communiqués, Ekankar, la religion de la lumière. On vous invite là-bas. Il y a même des repos ici à Goma qui sont construits par ces gens. Et ils mettent officiellement leur signe là-bas. Rotary Club. Je ne sais pas quoi, quoi et quoi et quoi. Notre problème aussi, c'est le problème de ne pas avoir de l'argent. Mais pourquoi ces gens-là ont de l'argent et ils donnent facilement et nous cédons parce que nous n'avons pas d'argent. Même quand il s'agit de construire quelque chose de l'église, ils viennent parce qu'ils ont l'argent. Et ils vous disent, bon, nous on va construire, mais nous allons mettre notre... Donc l'église est en danger. Pas seulement l'église, mais nous aussi. Ces gens, les partenaires que nous prenons dans nos entreprises là en ville, ces partenaires-là, quelles sont leurs origines? Le fait que nous refusons maintenant, c'est là que vient notre persécution en tant que chrétien. Quand nous savons que non, ça c'est de l'argent qui souillé, je ne prends pas, même si tu es dans le besoin. Tu ne vas pas prendre, c'est là que vient ta persécution. Et c'est pas à partir de là qu'on va maintenant voir quel est le degré, ton degré spirituel, ton degré d'intégrité devant le Seigneur. Quand tu es dans le... Et souvent, ils arrivent quand vous êtes dans les besoins. Un grand besoin et ils arrivent. Et vous ne savez pas quoi faire. Il y a les gens qui sont en train d'amimer les mots Wazalendo. Les mots Muzalendo, c'est bon, nous tous ici, nous sommes des Wazalendo. Muzalendo, c'est un nom swahili qui signifie patriote. Uzalendo, patriotisme. Alors, si tu n'es pas Muzalendo, ça veut dire que tu n'as rien à faire ici au Congo. Il faut être Muzalendo, il faut être patriote. Mais il y a des gens qui ont déjà rendu ça même une religion. Ils disent, en tout cas, mieux ni comme Muzalendo. Quand vous voyez très bien, d'une manière interne, vous constatez que c'est un Muzalendo parce qu'il est de la religion traditionnelle. Il y a les gens qui se disent, ils sont des panafricanistes. Ils reviennent, ils disent que Jésus-Christ que nous enseignons, c'est Jésus-Christ des Blancs. Et c'est leur religion ici qui nous amène à la pauvreté. Moi, je leur pose souvent une question. Est-ce qu'en Europe, ils sont pauvres? Si ce sont eux qui nous ont amené Christ, pour que Christ nous amène la pauvreté. Et est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce que d'ailleurs aussi Christ, c'est un Européen? Christ n'est pas un Européen, c'est un Asiatique. Quand on est dans l'obscurité, on n'a plus même le temps de discerner les choses. On n'a plus le temps de discerner. Ils disent, en tout cas, nous allons marcher, nous devons renoncer à toutes choses qui viennent des blancs. Et moi, quand je le regarde, il est habillé, il a un pantalon qui n'a pas été confectionné par nos ancêtres. Il a une montre qui n'a pas été confectionnée par nos ancêtres. Moi, je lui dis, ok, comme tu veux devenir panafricaniste, un vrai panafricaniste doit s'habiller le cache-sexe. Et comme ça, tu laisses même le soulier. N'utilise pas le téléphone parce que ce téléphone a été fabriqué par les gens que vous ne voulez pas. Mais pour se faire la publicité, ils utilisent le téléphone. Ça, c'est une contradiction. Pour qu'ils viennent de Goma jusqu'à Kinshasa, ils utilisent l'avion qui a été fabriqué par ces gens. Et c'est une contradiction. C'est aussi mal comprendre les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ceci, on les cache dans ce qu'on appelle droit de l'homme. Ce qu'on appelle droit de l'homme, en interne, il y a des choses qu'on nous propose, mais qui ne cadrent pas avec notre spiritualité, avec notre foi. Qui ne cadrent pas avec notre foi. Et quand nous allons ne pas le faire, ça sera une persécution pour nous. Ça sera une persécution. Voilà une persécution qui commence en Ouganda. En fait, ces gens savent que, possiblement, que nous pouvons ne pas réussir à dire à ces gens de renoncer Christ. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons leur proposer certaines choses, droits de l'homme. Et ils peuvent faire passer tout dans ce qu'on appelle droits de l'homme. Ceci montre que les gens de ce monde ne connaissent pas Dieu. Les gens de ce monde ne reçoivent pas le Fils de Dieu. Les gens de ce monde reçoivent les faux prophètes. Les gens de ce monde sont asservis à Satan. Ils sont ennemis de Dieu et des chrétiens. Ils sont passagers et voués au jugement. Ça, nous devons savoir. Nous devons savoir que ces gens ne dureront pas longtemps. Et si tu veux aussi ne pas durer longtemps, emboîte le pas des gens de ce monde. Nous devons savoir que le monde est étrange ou étranger à la vie de Dieu. Et tous ces gens-là font l'erreur. Il nous faut voir comme ce sont eux qui sont dans la lumière. Mais à vrai dire, ils sont dans l'obscurité. Alors, ce monde qui se comporte de cette manière, mais nous vivons dans ce monde, quelle est notre contribution, nous, en tant que chrétiens? La contribution que nous avons, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que le monde cherche à séduire les chrétiens par son prestige, son charme et ses facilités. Dieu a dit, vous allez manger à la sueur de votre front. Mais le diable vient, les gens de ce monde vous disent, c'est possible que tu manges sans la sueur de ton front. Aujourd'hui, à 12 heures, tu peux être pauvre et le monde te propose, à 13 heures, tu seras déjà milliardaire. Et c'est possible, tu peux l'être, mais pour combien de temps? Pour quelle éternité pour l'être? Donc, ils veulent faciliter la vie. C'est pourquoi les choses, vous recevez souvent même les messages dans vos téléphones. 50 gigas, je ne sais pas comment, on vous les donne. Ah, il y a une entreprise qui donne ceci. Non, non, vous devez savoir que rien n'est gratuit. Ne cherchons pas la vie facile. Quand nous cherchons la vie facile, nous devenons la proie des gens de ce monde. Donc la persécution que nous devons accepter, c'est d'accepter que la sueur sorte de nos fronts pour que la gloire revienne à Dieu. Ça veut dire que nous sommes persécutés par l'idéologie du monde. Je venais de le dire, le monde va comprendre que nous n'allons pas renoncer à Christ, mais on nous amène des idéologies à travers même Christ. C'est pourquoi même dans différentes églises, des réveils ou je ne sais de quoi, la prédication tourne autour de la bénédiction, la facilité. Nous sommes prêts pour la facilité, mais pour le travail, nous ne sommes pas prêts. C'est pourquoi même Les musulmans, quand ils veulent nous séduire, ils nous proposent le travail. Ils nous proposent la bourse d'études. Et toi, tu dis, là où je suis à Gomaville, qu'est-ce qu'on m'a déjà donné? Non, je dois sauter sur cette opportunité pour mourir éternellement. Le diable utilise beaucoup d'argent, mais le Seigneur, lui, sait que pour que quelqu'un vienne en lui, en tout cas, il n'a pas besoin d'utiliser l'argent. Il faut que vous croyez en lui. Vous croyez en lui et maintenant il vous promet, vous croyez en moi et je vais maintenant marcher avec vous. Je vais marcher avec vous dans la vie. Dieu appelle les chrétiens à observer une ligne de conduite. La première chose, s'abstenir de se conformer ou de s'associer aux pratiques du monde et à son esprit. Il faut vous abstenir. Deuxième chose, se préserver des souillures du monde en refusant de céder aux convoitises mondaines et en résistant à la tentation. La première question que vous devez vous poser, est-ce que j'ai l'esprit de discernement? Parce que possiblement quelque chose peut venir vers toi, mais tu ne discernes pas que c'est réellement une tentation. C'est possible, quelque chose arrive, et toi tu penses que c'est une opportunité, alors que c'est une tentation. Dieu résume cela à une seule phrase ou une expression. N'aimez pas le monde. Ces écritures que nous avons lues, il y a eu trois comportements qui s'opposent au désir de Dieu. Ces trois comportements sont lesquels? C'est la convoitise coupable ou la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ceci m'amène à voir ce qu'a été Ève dans le jardin d'Éden. Ces trois choses étaient là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Je peux le lire ce verset. C'est Genèse chapitre 3, le verset 6. Quand le diable vient auprès de vous, il vous propose et la convoitise de la chair refait surface. La convoitise des yeux et la convoitise de la et l'orgueil de la vie. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Je vous précise que avant que ce diable n'arrive, cette même femme passait par là et n'avait jamais vu que c'était bon à manger. Elle n'avait jamais vu que c'est beau aux yeux et que ça peut ouvrir l'intelligence. Mais il y a eu une proposition qui est arrivée. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est la convoitise de la chair. Ni coule, ni nenepe. Ne pate afia nzuri. Et agréable à la vue, elle a commencé à voir, ah, c'est très beau ce fruit. C'est très beau ce fruit. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie. Ouvrir l'intelligence, vouloir devenir comme Dieu. Et elle prit de ce fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Tout ce scénario s'est fait à présence de son mari. Et ils ont mangé. Ils ont mangé. L'orgueil, la convoitise de la chair nous amène souvent à ne pas discerner la volonté de Dieu. Ça nous amène à ne pas être prêt à affronter une souffrance, une certaine souffrance qui peut venir. Et nous disons, non, nous devons prendre ce qui nous arrive très facilement. Les hommes et les femmes veulent ce qui est remarquable aux yeux des hommes. Nous voulons ça. L'orgueil de la vie. Tout le monde veut ce qu'il a, ce qu'il est, ce qu'il veut avoir. Et nous pensons souvent que c'est ce que nous avons qui nous maintient en vie. Mais le Seigneur nous dit non. Ceux-là qui vivent la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, leur place, c'est dans les temps de feu. Et pour finir, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devons haïr ces trois choses? Parce que l'amour du monde et celui du Père s'excluent l'un et l'autre. L'amour du Père et celui du monde s'excluent. Ils ne peuvent jamais conjuguer ensemble. Les choses du monde viennent d'une source opposée à Dieu. Et là, il importe de se rappeler que le monde passe et sa convoitise aussi. Donc le monde et toute sa convoitise passeront. Les systèmes opposés à Dieu semblent seulement triompher. En fait, les gens-là qui sont dans le monde, quand nous les regardons dans nos yeux, nous voyons qu'ils ont réussi la vie. Il y a des gens qui marchent ici dans des cartons et vous, vous pensez que c'est un véhicule. Quand vous voyez ce véhicule, vous dites, en tout cas, celui-là a déjà réussi. Mais lui, il sait que ce n'est même pas un véhicule, c'est un carton. Et vous le convoitez. Il faut que je sois aussi comme celui-ci. Non, non. Apprenez aussi à apprécier ce que le Seigneur vous a donné. Et travaillez à l'améliorer de façon que vous puissiez aller de l'avant. Mais pas par compétition. Pas par convoiter les autres. Quelqu'un a construit une maison très élevée. Et toi, tu dis, ah, celui-ci vraiment a déjà réussi. Non, non. Peut-être que ces gens-là, ils peuvent construire de telles maisons. Mais quand on leur dit de manger, vous allez manger dans les toilettes. C'est une condition qu'on leur donne. Il a un gros matelas comme ça, mais on lui dit, tu ne dormiras jamais sur ce matelas. Et vous dites, il a réussi. Il n'a pas réussi. Il est dans la souffrance. Accepte ta souffrance qui est pour la gloire de Dieu. Ah, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la souffrance. Je ne dis pas que nous devons souffrir, mais je dis, acceptons notre vie si elle est le produit de la volonté de Dieu. Les croyants ont un rôle positif à jouer dans ce monde en étant des sources de lumière qui présentent la vérité du même coup. Nous devons mettre en évidence les péchés. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous opposer à toutes sortes de corruptions. Nous devons faire preuve de sagesse au sein d'une société immorale et matérialiste. Comment nous, les jeunes qui sommes étudiantes et étudiants, comment nous résistons face aux professeurs qui veulent vous donner des points sexuellement transmissibles? Est-ce que nous acceptons d'échouer l'année pour la gloire de Dieu ou nous disons, bon, haïta ishata, ça restera toujours? Nous devons comprendre que nous sommes les instruments de Dieu. Accepte de souffrir cet échec-là de l'école que de monter alors que tu viens de vendre tout ton honneur que le Seigneur t'avait donné. Et j'ai dit, nous allons toujours vivre parmi ces gens-là parce que le Seigneur ne nous a pas permis de nous ôter du monde. Nous sommes au monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il n'y a que la mort physique qui va nous amener. Et c'est Dieu qui va faire cette volonté quand nous allons partir. Alors quand nous partirons, c'est là où il y a maintenant la question. Je partirai comment et où? Parce que j'ai vécu comment aussi. C'est très important. Le Seigneur ayant vaincu le monde, il va nous donner aussi la capacité de vaincre le monde. Parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Celui que nous suivons, c'est le vainqueur. Et quand il est devant nous, nous devons nous rassurer que nous sommes aussi vainqueurs. Et il nous rassure. En Ésaïe 43, 1 à 2, c'est le verset par lequel j'ai fini. Et si parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Tenons debout pour la prière.
You are Yahweh. 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 Alpha
En omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh.
Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous chantons à basse voix ces cantiques,
you are Yahweh, you are Yahweh.
Tu vas prier pour deux choses. La première chose, nous prions pour le monde. Nous qui sommes au monde, nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons prier à ce que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous continuions à être la lumière dans ce monde perverti. Même quand il s'agira d'accepter une certaine souffrance à cause de notre foi, que le Seigneur nous vienne en aide. La deuxième chose, nous prions pour ces gens-là qui se mettent et qui veulent nous faire voir le monde en l'envers, qui veulent nous faire voir que c'est normal que nous pratiquions la corruption, les massacres, l'homosexualité et différentes déviations. Fais assez que ça te fasse mal, parce que si ça ne te fait pas mal, ta foi est en danger. Nous prions pour deux choses. Prie pour toi-même, afin que le Seigneur t'aide à discerner sa volonté dans ce monde. Mais aussi, tu pries pour ce monde. Les gens-là, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ces gens-là, afin qu'ils croient. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Tu sais ce que tu veux dans notre vie. Nous voulons rester, Seigneur, accrochés sur toi, malgré les difficultés de ce monde, malgré la poursuite dont nous pouvons faire l'objet, parce que nous avons voulu rester attachés à toi. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer à te demeurer fidèle. Tu connais nos pratiques dans nos différentes activités. Là où nous trouvons le pain de chaque jour, Seigneur, tu connais comment nous le trouvons. Tu connais comment nous réussissons aussi aux études et partout. Seigneur, avons besoin de toi. Aide mon frère, ma sœur, aide mon père et ma mère ici présents, afin que nous demeurions fidèles à toi. Seigneur, nous prions pour ce monde. Les gens de ce monde, Seigneur, ils sont nombreux parmi nous. Ces gens qui voient le monde à l'envers, les antivaleurs, ils les valorisent, Seigneur. Et il nous faut voir que c'est très important, c'est comme ça que nous devons vivre. Seigneur, nous prions pour que tu les changes, pour qu'ils soient confondus, parce que nous savons que toi, tu sais que ces gens-là ne demeureront pas éternellement. Ils attendent leur jugement. Mais par ton amour, pendant qu'ils sont encore vivants, Seigneur, nous te les recommandons afin que tu les confondes et qu'ils soient à mesure d'échanger et de revenir vers toi. Gloire te soit rendue, Seigneur. Bénis ton Église et garde-la intacte. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, nous allons parler et nous allons identifier les souffrances qui nous tarabustent ou qui nous font du mal et qui peuvent ou ne pas être même des péchés. Donc, venons encore demain, nous vous invitons afin que nous puissions répondre à deux questions. Identifier les souffrances que nous avons comme chrétiens, mais aussi comment maintenant faire face à ces souffrances. Merci beaucoup et bonne soirée.